t'abrège avec ta mère, on va louper le début.
Maman, je... Oui, je raccroche là, c'est... Non, mais c'est le début de l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Ah, on est déjà là, en direct ? Oui, bien sûr, alors on commence. Je me sens saisie en pleine réflexion sur ce dont je vous parlais. On y pense parfois en regardant un rideau fermé sur ce qu'il y a derrière, ce qu'on ne voit pas, mais qui bruisse, qui respire, qui attend. Le théâtre, c'est peut-être ça, une façon d'organiser l'invisible, de lui donner une forme, une couleur, une matière, pour qu'il puisse enfin exister aux yeux de tous. Mais qu'est-ce qu'on regarde vraiment quand on assiste à une pièce ? Est-ce l'histoire qui se joue ou l'histoire qu'on se raconte en la regardant ? Est-ce la scène ou les ombres qui se faufilent dans un coin, celles qu'on devine et qui nous troublent sans qu'on sache pourquoi ? Aujourd'hui, on parle de ce qu'il y a derrière, derrière le rideau, derrière les corps, derrière le silence. On parle du théâtre qui ne se laisse pas enfermer dans un cadre, qui déborde, qui nous attrape par la manche et qui nous murmure à l'oreille « Regarde mieux ». Nathalie Béas est à notre micro aujourd'hui, elle façonne des spectacles comme on compose des tableaux en laissant des espaces, des respirations, des éclats de lumière qui filent entre les doigts. Avec elle, on va essayer de toucher du bout des mots ce qui ne se dit pas tout à fait, de voir peut-être ce qu'on ne regarde jamais vraiment, puisque l'on va parler de son spectacle Velvet, qu'on aura le plaisir de découvrir sur la scène du Carré à Château-Gontier ce 28 février. C'est un rendez-vous à noter dans vos agendas. On va fermer les yeux pour finalement les ouvrir encore plus grands et tendre tout en tendant l'oreille aussi. C'est un exercice peut-être et je suis contente de ne pas en faire l'expérience toute seule puisque Maxime, tu m'accompagnes aujourd'hui sur cette émission. Comment vas-tu ?
Bonjour à tous, ça va super et toi Margot ?
Écoute, ça va bien et je suis très contente puisqu'aujourd'hui tu nous emmènes dans un endroit où je n'aurais peut-être pas emmené l'auditeur de l'autre radio. Tu t'es intéressée au refuge des deux écailles situé à Laval au Palindrome. Tu t'y es même rendu et tu as tendu ton micro. Donc en seconde partie d'émission, tu nous fais découvrir ce lieu plutôt unique à Laval. Alors j'étais pas loin de vous dire que Soizic allait nous rejoindre pour sa chronique, un autre écho de l'écho, mais non, ce sont les vacances scolaires, donc on la retrouve maintenant dans 2 semaines. Par contre, je ne me trompe pas en vous disant que c'est bien votre émission quotidienne L'Agité du Local qui commence, que vous êtes bien sûr les bienvenus. D'ailleurs, vous arrivez à temps puisque c'est maintenant que commence l'entretien du jour. L'Agité du Local sur l'autre radio. Alors bonjour Nathalie Béas, vous êtes une artiste qui transforme la scène en tableau vivant en jouant avec les corps, les matières et les émotions. Votre dernier spectacle, Velvet, s'intéresse à ce qui se cache derrière le théâtre et ses artifices et ce qu'il révèle de nous dans tout ce qu'il y a de plus sensible. Et donc on pourra le découvrir sur la scène du Théâtre des Ursulines à Château-Gontier le 28 février. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir, bonjour.
Une partie de votre formation a été aux Beaux-Arts d'Angers. Elle a marqué, j'imagine, votre regard un peu sur la scène. Qu'est-ce que cette approche peut-être plastique a apporté à votre travail théâtral ?
Mais en fait, c'est un parcours. Donc, c'est vrai que je ne me pose même plus la question de théâtre, danse, art plastique. C'est vrai que au début, quand j'ai fait les Beaux-Arts, je voulais pas du tout faire du théâtre. J'étais plutôt très inspirée par le cinéma et je voulais faire de la réalisation, du montage. Et au fur et à mesure de ma formation, je suis allée en Allemagne faire de la performance. Donc les chemins m'ont apporté, les années ont apporté plein de médiums en fait dans mes valises. Après les Beaux-Arts, j'ai fait le conservatoire en art dramatique. Donc, je suis passée par le théâtre, par les arts plastiques, par le cinéma, par la performance. Et puis, j'ai décidé de monter une compagnie. Et donc, en écrivant des spectacles qui sont, on va dire, très visuels, très, très physiques, très picturales et... c'est vrai, inspiré à la fois du cinéma, du cinéma italien, de plein de réalisateurs, mais aussi inspiré de la peinture, puis de la matière première, en fait. Je travaille beaucoup, sur des spectacles avec la terre, avec de l'argile. Et sur ce spectacle-là, je travaille beaucoup sur le tissu. Donc, c'est mon outil, en fait. Mon outil, c'est la scénographie, l'objet, l'aspect très plastique. C'est avant tout ça, c'est ma base de travail, plus que le théâtre, on va dire. La base est vraiment très, très picturale, et puis le théâtre arrive à l'intérieur de ça. Donc, c'est comme si je faisais une installation, comme si on rentrait dans une exposition. Et qui devient spectacle parce qu'il y a des acteurs, parce qu'il y a des choses qui se racontent, bien sûr. Mais le point de départ, il est de l'ordre de la composition, voire même comme une fresque ou comme même une composition musicale. Parce que la musique est très importante aussi. Donc, en fait, c'est toutes ces matières qui sont mises côte à côte et qui se répondent les unes aux autres. Et il n'y a pas une qui est mise en avant plus que l'autre.
Alors justement, si on parle du spectacle Velvet, vous prenez pour point de départ le théâtre lui-même, ses décors, ses cadres, ses tissus. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la scène le sujet du spectacle ?
Quand je fais un spectacle, il n'y a pas... c'est le début de la fin de l'autre. C'est-à-dire que je ne me dis pas, je vais travailler sur une thématique, sur cette création-là. Je regarde toujours en arrière ce qui s'est passé, ce que j'ai... Et ce que j'ai à aller creuser un peu plus. Et donc, sur ceux qui vont contre le vent, donc le spectacle d'avant, j'avais pas de décor. Et sur les autres spectacles, j'avais beaucoup de matière. Et j'ai épuré au fur et à mesure. En fait, j'ai voulu revenir sur cette matière du tissu, du rideau qui occupe en fait un peu tous mes spectacles où j'ai un rideau, une couleur. Et bien là, sur cette création, je n'ai pas un rideau, j'en ai plein. Et j'ai plusieurs couleurs. Je rends un peu hommage à la technique, au théâtre, à la machinerie, aux techniciens. Enfin, voilà, je trouve que... Enfin, j'en étais là à écouter aussi les lieux dans lesquels je travaillais et être à l'écoute aussi des fantômes et de l'invisible. Donc... quand je dis ouais, c'est un hommage au théâtre, mais c'est aussi je travaille sur qu'est-ce qui peut se passer derrière, sur l'illusion, sur son rapport au théâtre. Qu'est-ce qu'il y a derrière un rideau qui est fermé, qu'est-ce qu'on peut se raconter, voilà. Donc c'est très évocateur comme spectacle. C'est aussi beaucoup de poésie à l'état brut, quoi. Enfin, sans explication, quoi. C'est vraiment un spectacle très organique et très sensoriel. Donc, c'est des spectacles expérience. C'est-à-dire que le public se fait sa propre histoire. Je ne vais pas vous dire que ça raconte l'histoire de... Il n'y a pas de personnage. On est plus vraiment sur des figures, sur des silences et sur des secrets aussi.
Ce qu'on peut lire au sujet de ce spectacle, c'est que vous explorez le paradoxe entre ce qui est vu et ce qui est regardé, entre l'illusion et la réalité. En quoi cet angle-là, ce regard-là, vous travaille, vous intéresse ?
En fait, quand je me mets en tant que public, et quand j'écris les spectacles, je me mets déjà en tant que public. Et donc, je suis dans ce ressenti aussi de la scène. Comment rester éveillé ? Comment être actif, être un public actif, et qu'à tout moment ça peut basculer, on peut transformer les choses qu'on est en train de voir par une chute, par la chute de quelqu'un, la chute d'un objet, la chute d'un décor. Donc je suis très très sensible en fait à l'instant présent et au lâcher prise de ce qu'on observe, ce qu'on perçoit. Quand on est dans une salle de spectacle, et comment on réagit par rapport à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, à ce qui nous fait vibrer. Donc voilà, moi je compose sans réfléchir même en amont, quoi. Je suis beaucoup dans l'action en fait. Donc mon travail il se compose au fur et à mesure que j'écris. En résidence en fait, c'est-à-dire que j'ai des visions dans mes carnets, etc. Mais au fur et à mesure des répétitions, il y a des choses qui s'inventent beaucoup. Donc voilà, je suis pas autour d'une table en train de me dire le public va réagir comme ça ou comme ça. Non, je fais, je ressens et puis je propose. Et après voilà mais l'envie c'est vraiment de tendre quand même des fils vers le public et qu'il soit aussi dans une sorte de réception commune, une sorte de langage universel où on serait aussi sur la même longueur d'onde par rapport à la contemplation et à un temps suspendu.
Ce qui est intéressant, c'est que les interprètes que l'on verra sur scène ne sont pas seulement des acteurs, mais aussi manipulateurs et accessoiristes. Comment est-ce que vous avez travaillé cette approche avec eux ?
La plupart des acteurs avec qui je travaille depuis des années, ils sont habitués à la fois manipuler, être acteur, personnage, pas personnage, en dehors, en coulisses, à vue. Enfin voilà, on voit toutes les ficelles en fait dans mes spectacles, toujours les ficelles de la construction du décor et et puis après je fais intervenir aussi un technicien, enfin qui est régisseur plateau, il passe, voilà, enfin j'ai pas eu de souci avec ça, c'est-à-dire que on est dès le début il y a ce rapport au plateau très très intense en fait où je voulais qu'il manipule les guindes, qu'il soit là complètement dans la matière du décor, quoi, que le principal personnage c'était le décor en fait, que c'était le premier, c'était le décor, et qu'il fallait qu'il parle avec lui, enfin qu'il agisse avec lui. Et qui, donc ça devenait un partenaire de jeu, quoi, le décor, la matière, enfin du décor, la scénographie. Donc il n'y a pas eu de souci avec ça, puisque c'est dès le début, c'est évoqué, c'est qu'il devait faire corps avec le décor, justement.
Je me pose la question du spectateur quand vous travaillez en résidence cette pièce-là. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez que ressente le spectateur qui sera en face de la scène?
Je ne projette pas ce que le spectateur va ressentir. C'est que je me mets toute... Moi, quand je compose, quand j'écris un spectacle, je suis la première spectatrice et je me mets comme si je ne savais pas ce que j'étais en train de voir. Donc, j'essaye d'être dans du ressenti, dans de l'émotion, enfin dans des choses à fleur de peau, en fait. Qu'est-ce que la musique va me provoquer ? Qu'est-ce qu'une couleur sous-éclairée va faire à mon regard ? Enfin, donc je suis vraiment à l'écoute de tous les sens en fait qu'on peut avoir quand on est assis dans une salle et qu'on regarde une couleur et on écoute un son. Voilà, mais c'est vrai que je ne projette pas à me dire oui, ils vont avoir cette sensation-là ou une autre. Enfin, voilà, c'est avant tout, c'est moi si je ressens ou pas, quoi. Après, le public, il rentre dans cette matière-là ou pas, quoi. Mais bon, ce que je dis à chaque fois, parce que souvent, il y a des groupes de jeunes qui ne connaissent pas du tout, même c'est la première fois qu'ils vont au théâtre, et comme il n'y a pas une narration. Linéaire, avec des personnages. Donc, j'essaye de donner 3-4 mots qui dit que, en fait, qu'il faut justement lâcher prise et être dans ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur et son paysage intérieur. Et essayer de se laisser porter, en fait, par les images. Il y a des sensations qui vont arriver. Et ne pas... voilà, ça monte pas forcément au mental, et parce que si on se pose trop de questions sur le sens de ce qu'on est en train de voir, eh bien, on perd un peu le fil de tout ça. Et qu'il n'y a pas un fil, il y a des fils, et que c'est à chacun aussi d'être dans du ressenti. Voilà, c'est vraiment une histoire d'être attentif à tout ça, même si on n'a jamais vu de spectacle, ou qu'on n'a pas forcément de référence cinématographique, picturale, eh ben on peut ressentir des choses en fait. Enfin, je trouve que on a tous de la poésie en nous, quoi, des choses qui peuvent s'ouvrir, d'autres portes, des portes du sensible.
Et alors, en tant qu'artiste associé justement à plusieurs institutions, enfin vous avez été associé à plusieurs structures, vous avez donc aussi un rôle de transmission. Vous parliez justement du retour de jeunes qui n'avaient jamais encore été au théâtre. Quel regard vous portez sur la jeune création aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez transmettre justement à ces jeunes ?
Je ne sais pas si je peux transmettre. J'ai pas de recette en fait. J'ai pas de recette. C'est juste le fait de s'arrêter la recette et de s'arrêter et puis déjà d'être dans bah, moi l'état de présence est très importante par rapport à des jeunes qui voudraient même faire du théâtre. C'est avant de dire quoi que ce soit, avant de dire un texte, avant de faire des choses, déjà de marcher sur un plateau et puis d'être juste là et d'être déjà de raconter quelque chose avec quelqu'un qui est là et face au vide, et face à une couleur, ou face à un objet, ou face et de créer des histoires avec peu de choses. En fait, je suis vraiment sur ce rapport un peu Arte Povera où on a un acteur, quelques objets, des choses très simples, et comment avec ces choses très simples, on peut faire voyager les gens et les amener ailleurs, et pas forcément avec du texte non plus, et c'est pas forcément de la danse, et on interroge plein de codes du théâtre, de la danse, etc., et essayer toujours de s'inventer et de retrouver aussi l'enfant qui est en nous, d'être à l'écoute de ça.
Velvet, c'est un spectacle très jeune puisqu'il a été créé en novembre 2024, en tout cas peut-être présenté pour la première fois.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il peut encore évoluer ou est-ce que là vous êtes à une phase où finalement c'est bon, on n'y touche plus ?
Ah ben non, mais moi je le fais depuis la création, il a beaucoup bougé. Je suis tous les jours là et je fais évoluer le spectacle. Donc après, voilà, c'est des micro-évolutions, mais j'ai eu des personnes qui sont venues entre la création à Strasbourg et puis la diffusion à Aubervilliers. Donc il y avait 2 mois de différence, on va dire, ouais. Ouais, c'était ouais, à peu près à peine 1 mois et demi. Bah, il y avait plein de choses qui avaient changé. Elle me l'a évoqué, elle a vu plein de choses. Et elle a pleuré à des moments où elle n'avait pas pleuré, ri à des moments où elle n'avait pas ri, parce que c'est des histoires de rythmique, c'est des histoires, c'est des micro-moments d'évolution en fait, mais quand il y en a plusieurs comme ça, eh bien on peut voir différemment le spectacle. Et donc je fais évoluer les spectacles.
Et alors au stade où vous en êtes de représentation, de confrontation, enfin de rencontre en tout cas avec le public, est-ce que vous êtes déjà en train de penser la suite, en train de penser votre prochaine création, ou est-ce que pour l'instant déjà il faut en fait faire vivre Velvet ?
Eh bien moi je fais vivre les spectacles même très longtemps, parce qu'il y a des spectacles là qui tournent depuis 12, 13, voire plus que ça, parce que j'ai des spectacles au répertoire et que je continue à faire vivre. Et donc, je trouve que c'est important de faire vivre tous les spectacles, surtout quand les gens ont apprécié, enfin, ont été touchés. Donc, voilà, il n'y a jamais de fin de spectacle. Je me dis jamais ce spectacle, il est fini, on ne le jouera plus. Il joue toujours, donc j'ai 5 spectacles qui sont disponibles en tournée. Et puis, bien sûr, quand on sort une création, on projette d'autres, on a d'autres projets en tête, on a d'autres envies, d'autres, mais bon voilà, ça reste encore à l'état de graines.
Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, le spectacle Velvet est donc à découvrir le vendredi 28 février prochain au Théâtre des Ursulines au Carré à Château-Gontier. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps.
Merci beaucoup.
L'agité du local sur l'autre radio. L'agité du local, ça continue, mais tout de suite, je vous propose un instant un peu volé, multicolore, d'Emma Peters. C'est une jolie palette qui nous pousse à s'affirmer et à briller sans retenue. Et oui, dit comme ça, ça fait déjà du bien. Écoutez.
Seul chez toi, tu restes là, tu n'oses pas. Même à ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il dira? Dans ton petit village, tout le monde se connaît. Faut pas foutre la honte à ta famille modèle. Oh là là, elle. c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Oh là là, toi tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça. Ça ne t'atteint pas. Tout est normal, t'es amoureux, tu ne choisis pas. Et fais une pause, t'as quelque chose de plus que ces gens-là. Oh, t'as le droit de prendre qui tu veux dans tes bras. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça.
Vous écoutez l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Dans le reportage du jour, on reste à Laval justement, mais on se rend dans un endroit plutôt unique. Maxime, où est-ce que tu nous emmènes ?
Eh bien Margot, si je te dis aquarium et vivarium, ce sont des indices plutôt faciles, mais pour ne pas trop en dire, je te laisse plutôt venir avec moi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur Laval au cœur du refuge des deux écailles, un véritable sanctuaire dédié aux reptiles et aux poissons en quête de protection. Nous avons la chance d'être accompagnés de John Desplanques, président du refuge depuis 8 mois, mais également membre engagé depuis plus de 10 ans. Ensemble, nous allons plonger dans cet univers fascinant où passion et engagement se croisent pour offrir une nouvelle chance à ces animaux.
L'association, elle est née en 2005 dans ce local-là. Donc avant, elle était, alors d'après ce qu'on entend parler, elle serait depuis 1995 au Bourny. Donc c'était un club aquariophile et terrariophile qui s'appelait Association Aquariophile et Terrariophile Lavalloise, donc le fameux AATL, et qui a déménagé au Palindrome en 2005. Et aujourd'hui, depuis 2022, ouais, on est passé refuge pour la simple et bonne raison qu'on a eu une grosse demande d'abandon, notamment sur les poissons, et beaucoup sur les reptiles, du fait que ça soit la mode aujourd'hui. Donc on s'est un peu senti obligé, on a commencé à en prendre un ou deux, et puis après on a dit qu'on ne peut pas continuer en club aquario avec le nombre d'abandons, donc on est passé refuge. De mémoire au dernier chiffre, on est 33 membres, et dont dans les 33, on est 5 membres du bureau, pas plus d'une dizaine de membres actifs. Hein. Parce que bah faut passer tous les jours un peu, hein, tous les jours de la semaine. Ça reste des animaux, donc on passe un peu régulièrement.
Est-ce que vous faites adopter vos animaux ?
Eh bien oui, en fait, côté reptile, on a un protocole qui fait qu'on demande à ce que souvent la personne elle devienne membre, parce que c'est le plus simple de gérer ses connaissances. Ça se fait un peu naturellement, on va dire, d'adopter un animal chez nous. Juste, nous, on s'assure qu'il y a bien les connaissances chez la personne pour éviter qu'on le retrouve 5 ans plus tard, quoi.
J'ai vu dans votre site que vous faites aussi des pensions.
Dites-moi en plus.
C'est peut-être une solution, plutôt que de penser à l'abandon, de partir en vacances. Bah, c'est cool, hein. Tout le monde aime partir en vacances. Et les animaux, ils partent pas avec nous. Donc, du coup, nous, on propose le service pension. On accueille l'animal le temps des vacances. On peut appeler ça aussi des vacances pour l'animal. On a commencé ça avec Spiro, un Pogona qui est malheureusement plus de seconde. Et son propriétaire, il partait en Angleterre 5-6 fois par an. C'est comme ça que ça a commencé, les pensions. Et en fait, on s'est dit, bah ouais, si on fait les pensions, on a peut-être moins d'abandon.
Quelles sont les raisons d'abandon?
De tous les... Et ça passe par les plus absurdes. Bah forcément, un mauvais choix avant d'adopter un animal. Les mauvais conseils. Après, de tout, déménagement, beaucoup de divorces, malheureusement. Ça ne va pas avec l'actualité de la Saint-Valentin, mais ouais, c'est sûr que là, ouais, beaucoup de divorces, même des problèmes de santé surtout.
Comment dire, très bien informé sur les choses.
Nous avons le plaisir de rencontrer Emmanuel, trésorier du refuge et bénévole engagé depuis plus de 10 ans. Il va nous en dire plus sur son rôle au sein du refuge.
Moi, je m'occupe plus de la partie reptiles, amphibiens. Comme je travaille le samedi, j'accueille moins le public. Moi, je m'occupe plus des soins et de l'entretien à la semaine. Et puis, j'aide les collègues quand il faut.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être bénévole ici?
Moi, j'ai des bestioles un peu comme ça depuis très longtemps. Et puis, une fois, en arrivant au Palindrome pour aller à la bibliothèque, j'ai vu justement quelqu'un avec... j'ai reconnu des aquariums, etc. Donc, je suis venu voir. Le principal problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas tellement visible. On n'est pas trop dans la communication parce que comme on est peu de bénévoles, notre mission, c'est vraiment de s'occuper au mieux des animaux, de recevoir ceux qui veulent faire des dons, ceux qui veulent être formés. Donc, on est un petit peu en peine de communication. C'est souvent les gens viennent ici et souvent ils disent mais ils connaissaient pas qu'il y avait ça à Laval alors depuis très longtemps puisque là on a fêté nos 20 ans à l'automne.
Bah, mon père a très peur des serpents. Comment on peut aider à ne moins avoir peur de ça?
Comme on disait, souvent on a peur de ce qu'on connaît pas. Donc dans un premier temps il y a même des membres ici qui étaient attirés par ça mais la mère avait un peu peur etc. Donc ils viennent ici, on les désensibilise avec des premiers contacts, avec des premiers soins simplement. À observer, il y a beaucoup de choses à voir. Faut prendre le temps et avoir surtout envie de le faire.
Vous nous avez dit que c'était l'ancienne poissonnerie de Leclerc.
En 2004, alors moi j'étais pas là, mais quand le Leclerc s'est déplacé, ils ont essayé de trouver le maximum de clubs de sport et d'associations pour gérer ce bâtiment-là. Ici, là où il y a les poissons actuellement, c'était l'ancienne poissonnerie, donc c'est assez marrant. Il y a le même carrelage encore d'origine, et donc c'est déjà un bel espace. Il y a peu de villes qui ont un environnement ou un club de ce type. Hein.
J'avais vu que vous participez à des événements comme le dernier qui était à Saint-Pierre-la-Cour pour 2025. Vous avez des événements à venir.
Alors, on est en train de préparer une bourse. On est encore dans les recherches de salles là aujourd'hui parce que c'est pas facile de trouver une salle dans nos budgets. Mais oui, on a fait une bourse reptile en partenariat avec les Volières Mayonnaises, qui est un club passionné d'oiseaux. Et donc eux, ils feront tous les ans une bourse à Saint-Pierre-la-Cour. Et l'an dernier, donc en 2023, quand j'y étais, quand j'ai vu la moitié de la salle vide, j'ai demandé savoir s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Et on a réussi à faire une bourse qui a très bien fonctionné, qui a fait 435 entrées. Donc nous, c'est tout ce qu'on demandait. On est un refuge et on promouvoit un peu la vente d'animaux. Mais nous, derrière, le message, c'était surtout de vendre les animaux des éleveurs qu'ils ont reproduits chez eux et les vendre intelligemment plutôt que de les vendre sur le bon coin à qui on sait personne parce qu'on connaît pas forcément les gens qui sont sur Internet et tout ça. Donc voilà, derrière, on essaye de faire ce genre d'événement histoire de placer les animaux intelligemment et réfléchis. Et donc cette année, ouais, j'aimerais bien en faire une. La date, ça sera fin d'année, courant septembre, courant octobre normalement. Mais là, je suis encore dans les recherches de salles.
Est-ce que le refuge est ouvert au public?
Alors le refuge, il est ouvert les samedis de semaine paire de 14h30 à 17h30.
Comment soutenir le refuge?
Alors le refuge, on peut le soutenir sur notre site internet. On a un lien pour faire un don. L'association est reconnue d'intérêt général qui fait que vous avez une réduction d'impôt de 70%. Après, bah, sinon, venir nous voir directement. Une adhésion, ça peut très bien nous soutenir aussi. Et voilà, même du don matériel, souvent en reptile, c'est vrai qu'on a le plus besoin.
Le refuge des écailles se situe à 25 rue Albert Einstein à Laval. Il offre une seconde chance aux animaux grâce à l'engagement des bénévoles. Un grand merci à John Desplan de nous avoir ouvert les portes du refuge pour nous parler de ce magnifique lieu unique.
Vous écoutez l'agité du local et on rend bientôt l'antenne, mais avant de terminer, on fait une pause, Maxime.
J'espère que vous êtes bien installés car on va écouter Something Comforting de Porter Robinson.
Void away. Have I lost a
La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Nathalie Béas d'avoir été à notre micro aujourd'hui. Merci à toi, Maxime, pour cette très belle découverte. Qu'est-ce qu'on écoute sur l'autre radio aujourd'hui ?
On débute la soirée à 19h. On retrouve, comme tous les mercredis, Novorama. Dans cette émission, nous découvrons de nouveaux albums indie rock et pop électro, avec en plus des chroniques et une interview d'un artiste ou d'un groupe émergent.
Et puis ça continue.
Ensuite, nous retrouvons à 21h Chaosphère.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de la JT du local. Nous serons avec Clément Thirion, metteur en scène et chorégraphe du spectacle Norman. C'est comme normal, à une lettre près, que vous pourrez découvrir au Reflet à Saint-Berthevin à l'occasion du festival Monde dans le bus. D'ici là, accordez-vous une parenthèse, même minuscule, un regard par la fenêtre, une chanson en boucle, un silence qui fait du bien. Vous le méritez et s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, bah c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.